Peut-être ne savez-vous pas que les Juifs ne permettaient pas aux jeunes gens de lire le Cantique des Cantiques et le livre du prophète Ézéchiel avant l'âge de 30 ans. On se fait des fausses idées sur les textes sacrés et on s'imagine aussi que le langage est prude, réservé et chaste. Je commence à lire le chapitre 23 du livre d'Ézéchiel. L'Éternel m'adressa la parole en ces termes. Fils d'homme, il y avait deux femmes nées d'une même mère. Elles se sont prostituées en Égypte. Oui, là, dès leur jeunesse, elles se sont prostituées. On leur a caressé les seins et l'on a saisi leurs seins de jeunes filles. Versets 1 à 3. Une fois encore, le prophète va mettre les fautes des habitants de Jérusalem devant leurs yeux. Et pour bien faire ressentir combien elles font horreur à l'Éternel, il va utiliser des images choquantes dans le but de sortir ses auditeurs de leur torpeur spirituelle et de susciter en eux la repentance. Les deux femmes citées représentent les deux royaumes israélites, celui des 10 tribus du Nord et celui de Juda. En Égypte, ils formaient un seul peuple, c'est la mère. Mais elle et ses filles se sont prostituées aux idoles. Je continue. La plus grande, c'est Ohola et sa sœur, c'est Oholiba. Elles m'appartenaient et elles m'ont donné des fils et des filles. Ohola, c'est Samarie et Oholiba, c'est Jérusalem. Verset 4. Le plus important des deux royaumes avait Samarie pour capitale. Son nom, Ohola, signifie « sa propre tente », une allusion au sanctuaire illégitime érigé dans le royaume des 10 tribus du Nord. C'est le roi Jéroboam qui est à l'origine de cette idolâtrie. Il installa deux veaux d'or, l'un à Bethel et l'autre tout au nord dans la tribu de Dan, afin que son peuple n'aille plus à Jérusalem de peur que les deux royaumes se réunifient et lui soit écarté du pouvoir, ou pire, exécuté. La sœur Juda porte le nom de Oholiba, ce qui veut dire « ma tante en elle », une allusion au temple légitime de Jérusalem. Je continue en compressant tout au long. Ola était mienne, mais elle s'est prostituée. Ce fut avec passion qu'elle aima ses amants, les guerriers assyriens. Elle n'a pas délaissé ses prostitutions du passé dans le pays d'Égypte. Là-bas, les Égyptiens avaient couché avec elle dans sa jeunesse. Ils avaient saisi ses seins de jeune fille et l'avaient submergée de leur prostitution. Versets 5 à 8. Au lieu de faire confiance à l'Éternel, Israël s'est soumis tantôt aux Assyriens, tantôt aux Égyptiens, tout en adoptant leur fausse divinité. Cette apostasie est une prostitution religieuse. Je continue. Aussi, je l'ai livrée à ses amants, les Assyriens. Eux, ils la mirent à nu, ils se sont emparés de ses fils et de ses filles, puis ils l'ont tuée par l'épée. Versets 9 à 10. Samarie fut détruite en 722 avant Jésus-Christ et le royaume des 10 tribus du Nord cessa d'exister. Je continue. Sa sœur, Oholiba, a bien vu tout cela, mais dans ses désirs passionnels, elle s'est corrompue plus qu'elle et ses prostitutions ont été encore pires que celles de sa sœur. Elle a brûlé d'un désir passionnel pour les Assyriens. Mais la deuxième sœur alla plus loin encore dans la prostitution. Elle vit sur le mur des hommes dessinés, des représentations de Chaldéens dessinés, peints en rouge. En les voyant, elle s'est enflammée pour eux d'un désir passionnel et elle a dépêché des messagers vers eux dans la Chaldée. Et les Babyloniens se sont rendus chez elle pour partager son lit et pour la rendre impure par leur prostitution. Versets 11 à 17. Depuis l'époque du roi Akaz, Juda cherchait des alliances avec l'Assyrie. Akaz alla même à Damas pour rencontrer le roi assyrien. Là, il vit un autel qui l'impressionna tellement qu'il en fit faire une réplique à Jérusalem. Mais après la conquête de l'Assyrie par les Babyloniens, Juda se mit à chercher leur bonne grâce. Les Assyriens et les Babyloniens couvraient les murailles de leurs palais de peintures représentant des scènes de guerre, de chasse et de victoire. Quand les ambassadeurs de Jérusalem allaient à Ninive, capitale de la Syrie, et à Babylone, à leur retour, ils racontaient avec admiration ce qu'ils avaient vu dans ces villes. Certains rois de Juda, et Sédécias en particulier, imitaient dans leurs palais ces peintures brillantes. C'est ainsi que l'idolâtrie chaldéenne pénétra facilement dans Juda. Je continue. Quand elle fut déshonorée par les Babyloniens, elle les a pris en dégoût. Tu as voulu revivre les débauches de ta jeunesse lorsque les Égyptiens te saisissaient les seins et caressaient tes seins de jeune fille. Versets 17 à 21. Quand le joug de Babylone a trop pesé, Juda, dégoûté de cette dépendance, a recherché en Égypte un soutien militaire. C'était comme si elle revenait à ses débauches de jeunesse. Je continue. C'est pourquoi le Seigneur, l'Éternel, le déclare. Écoute, ô Liba, je vais dresser tes amants contre toi, ceux que tu as pris en dégoût, les fils de Babylone, et tous les Chaldéens. Je répandrai sur toi l'indignation de mon amour que tu as bafoué. Ils exerceront leur fureur contre toi, et ils te couperont le nez et les oreilles. Ce qui restera tombera par l'épée. Ils prendront tes fils et tes filles, et ceux qui subsisteront seront livrés au feu. Versets 22-25. En représailles pour son infidélité avec l'Égypte, Babylone détruira Jérusalem. Les premiers séducteurs de Juda devinrent ses bourreaux. Les Babyloniens, comme les Assyriens, mutilaient leurs prisonniers. Je continue plus loin. Voici ce que déclare le Seigneur, l'Éternel. La coupe que ta sœur a bue, tu la boiras aussi, coupe large et profonde, qui donnera à rire, à se moquer, tant elle est grande. Tu seras rassasié d'ivresse et de tristesse. C'est une coupe de dévastation et d'effroi, la coupe de ta sœur de Samarie. Verset 32. La coupe est une image classique de jugement. Jérusalem va subir le même sort que Samarie et les autres nations se moqueront de Juda. Je continue. Tu boiras cette coupe et tu la videras. Tu la briseras en morceaux et avec ses tessons tu te lacéreras les seins, car c'est moi qui te le dis. Puisque tu m'as mis en oubli, que tu m'as rejeté en me tournant le dos, tu payeras toi aussi pour tes débauches et ta prostitution. Versets 33 et 34. L'ingratitude de l'homme envers l'amour de Dieu se paye très cher. Ô Liba, se lacérant les seins, exprime le carnage lors du sac de Jérusalem. Je continue plus loin. Puis l'Éternel me dit, prononce un jugement contre Ohola et contre Oholiba et dénonce leurs abominations. Car elles ont été toutes deux adultères et les mains de chacune sont couvertes de sang. C'est avec leurs idoles qu'elles ont commis adultère et elles leur ont sacrifié les fils qu'elles m'ont enfantés pour qu'elles les dévorent. Quand elles immolaient leurs fils à leurs idoles, elles sont entrées ce jour même dans mon sanctuaire pour le profaner. Oui, voilà ce qu'elles ont fait au milieu de mon temple. Versets 36 et 37. L'idolâtrie des Israélites était abjecte et allait jusqu'au sacrifice d'enfants au dieu Moloch. Mais cela ne les empêchait pas d'offrir aussi un culte à l'Éternel qui était donc sans cesse mêlé aux idoles et mis au même niveau qu'eux. Un crime de lèse-majesté. Je continue. Elles ont envoyé chercher au loin des hommes. Pour eux, tu t'es baigné, tu t'es fardé les yeux, tu as mis tes bijoux et tu t'es couché là sur un lit d'apparat devant lequel on a disposé une table et tu y as posé mon encens et mon huile. Versets 40 et 41. Les Israélites du Nord et de Juda ont tout fait pour gagner les bonnes grâces des monarques étrangers. Ils leur offraient les richesses que l'Éternel leur avait données et qui auraient dû être consacrées à son culte et à son service. Dans la foulée, les Israélites ont également adopté l'idolâtrie grossière et dégradante des peuples païens. Au niveau spirituel, les deux sœurs devinrent des prostituées de bas étage, attirant à elles n'importe qui. Je continue plus loin. Mais par des hommes justes, elles seront ensemble jugées selon la loi des femmes adultères et la loi sur les femmes qui répandent le sang, car elles sont bien adultères et ont du sang sur les mains. Verset 45. Les soldats babyloniens étaient des brutes épaisses, mais ils sont appelés justes parce qu'ils sont l'épée de Dieu. Jérusalem sera jugée selon la loi qui condamnait à mort les meurtriers et les adultères. Je finis le chapitre 23. Je ferai retomber sur vous votre débauche et vous payerez vos péchés avec les idoles. Vous reconnaîtrez que je suis le Seigneur, l'Éternel. Verset 48. Ce discours particulièrement menaçant renferme quand même une lueur d'espoir dans le sens que celui qui reconnaît qu'il subit le châtiment de Dieu à cause de son péché a déjà fait le premier pas vers la repentance et donc le pardon. Nous arrivons au chapitre 24 qui est particulièrement tragique autant pour Juda que pour Ézéchiel. Je commence à le lire. Le 10e jour du 10e mois dans la 9e année, l'Éternel m'adressa la parole et me dit « Fils d'homme, note par écrit la date d'aujourd'hui de façon précise car aujourd'hui même le roi de Babylone a commencé les opérations contre Jérusalem. » Versets 1 et 2. La 9e année après la déportation du roi Jéhoïakin correspond au 15 janvier 588 avant Jésus-Christ. Ézéchiel reçoit cette information le jour où le siège de Jérusalem débute. En notant cette date, les exilés pourront plus tard vérifier l'exactitude de cette révélation. Alors qu'aujourd'hui, nous pouvons voir sur nos petits écrans des gens se faire massacrer en direct, à cette époque, il fallait des semaines ou des mois avant qu'on apprenne la nouvelle. Je continue. « Raconte une parabole à la communauté rebelle, dis-lui. Voici ce que déclare le Seigneur, l'Éternel. Prépare la marmite, mets-la en place et verse-y de l'eau. Mets-y de bons morceaux de viande, tous les meilleurs morceaux, le gigot et l'épaule. Finis de la remplir avec des eaux de choix. » Versets 3 et 4. Ézéchiel reprend la métaphore de la marmite, mais en lui donnant un autre sens. Les bons morceaux de viande sont les Israélites qui croyaient avoir échappé à la première déportation à cause de leur supériorité, sans doute morale, c'est du moins ce qu'ils croyaient, sur leurs frères exilés. Les meilleurs morceaux représentent les riches, et les os sont l'armée et les chefs qui ont la charge de défendre la ville. Je continue. Prends les meilleurs moutons dans le troupeau, puis entasse le bois sous la marmite. Fais-la bouillir à gros bouillon, que même les os cuisent. Verset 5. Le feu sous la marmite est le châtiment de Dieu infligé par les Babyloniens. Je continue. Voici ce que déclare le Seigneur l'Éternel. Malheur à la ville meurtrière, marmite couverte de vert de gris et dont le vert de gris ne s'en va pas. Retirez-en les morceaux les uns après les autres, sans tirer au sort. Verset 6. Jérusalem était remplie de meurtres impunis. Le vert de gris représente le sang versé qui n'a pas été nettoyé par la mort des malfaiteurs et par la repentance de la ville entière. Ce sang reste donc sur la conscience des habitants comme du vert de gris attaché aux parois d'une chaudière. Il s'ensuit que tous les habitants sans exception vont subir le jugement divin. Avant de jeter la pierre aux Israélites, rappelons-nous que, comme eux, nous sommes incrustés de vers de gris. Mon péché est une tache sur la création de Dieu. Je continue. Car le sang que Jérusalem a versé est toujours au milieu d'elle. Il n'a pas été répandu sur la terre où la poussière l'aurait recouvert. Non, elle l'a versé sur la roche nue. Verset 7. Les meurtres se faisaient au grand jour, car ils n'étaient pas sanctionnés. Je continue. Pour faire déborder ma colère et lui faire payer ses crimes, j'ai fait verser ce sang sur la roche nue pour qu'il ne soit pas recouvert. C'est pourquoi le Seigneur l'Éternel déclare ceci. Malheur à la ville sanguinaire, moi aussi je dresserai un grand bûcher. Versets 8 et 9. Dieu va mettre le feu à la ville et verser le sang des criminels sur les pavés de Jérusalem. Je continue plus loin. Ensuite, tu mettras la marmite vide sur des braises pour qu'elle chauffe, que son cuivre rougisse et que ses impuretés se fondent à l'intérieur et que son vert de gris soit consumé. Mais tous ces efforts sont inutiles. Le vert de gris dont elle est couverte en quantité ne partira pas par le feu. Versets 11 et 12. Ézéchiel doit maintenant nettoyer le vert de gris de la chaudière, mais le feu le plus ardent ne réussit pas à détacher cette croûte épaisse. Jérusalem, la marmite, qui a obstinément refusé d'être purifiée par son Dieu, sera consumée après avoir été vidée de ses habitants. Je continue plus loin. L'Éternel m'adressa la parole en ces termes. « Fils d'homme, je vais t'enlever par une mort soudaine, celle qui charme tes yeux, mais tu ne célébreras pas de deuil, tu ne pleureras pas, tu ne verseras aucune larme. Gémis en silence, mais n'accomplis pas de rite funèbre. » Mets ton turban sur la tête et tes sandales aux pieds. Ne te couvre pas la moustache et n'accepte pas le pain de condoléances des voisins. Versets 15 à 17. Ézéchiel doit accomplir un nouveau mime prophétique, mais celui-là est personnellement très douloureux. Il apprend dans une vision qu'il va perdre sa femme qu'il aimait tendrement. Non seulement sa chérie va mourir, mais il doit rester indifférent à ce malheur et ne pas prendre le deuil. Dans les circonstances tragiques, les Israélites avaient coutume d'ôter leur coiffure pour se mettre des cendres sur la tête. Ils avaient aussi l'habitude de rester pieds nus et de se couvrir la barbe et le bas du visage jusqu'au nez. Le pain de condoléances était les aliments que les amis envoyaient à la famille en deuil. Je continue. Le matin, je m'adressais au peuple et le soir même, ma femme mourut. Le lendemain matin, j'agis conformément à ce qui m'avait été ordonné. Alors les gens me demandèrent, « Pourquoi agis-tu de la sorte? Nous expliqueras-tu ce que cela signifie pour nous ?» Je leur répondis, « L'Éternel m'a adressé la parole en ces termes. Dis à la communauté d'Israël, voici ce que déclare le Seigneur l'Éternel. Je vais profaner mon sanctuaire dont vous croyez tirer votre force et dont vous êtes si fiers, qui charme vos yeux et qui est l'objet de votre sollicitude. Vos fils et vos filles que vous avez laissés là-bas tomberont par l'épée et vous agirez comme j'ai agi. Vous ne vous couvrirez pas la moustache et vous ne mangerez pas le pain de condoléances de vos voisins. Versets 18 à 22. La consécration et l'obéissance du prophète sont totales. Il montre à ses contemporains exilés la conduite à tenir quand on leur annoncera la destruction de Jérusalem et du Temple. Il existe des situations où les considérations d'ordre personnel doivent céder le pas devant la volonté de Dieu, et ici, c'en est une. Et puis surtout, aucune manifestation de douleur de la part des Israélites ne pourra exprimer la profonde détresse qui les saisira lorsqu'ils apprendront que le temple et la ville sainte ont été entièrement détruits et que ses habitants, dont les membres de leur propre famille, sont morts ou déportés. Tout comme Ézéchiel avait perdu celle qui charmait ses yeux, les exilés allaient perdre Jérusalem et le temple qui charmait leurs yeux. Il faut en effet savoir que les Israélites s'enorgueillissaient et tiraient leur gloire du temple, dont la présence les rassurait même contre les menaces que leur adressait l'Éternel. C'est un comble. Mais la nouvelle de sa destruction mettra une fin abrupte et définitive à toutes leurs fausses illusions. Je continue. Vous garderez vos turbans sur la tête et vos sandales aux pieds. Vous ne célébrerez pas de deuil et vous ne pleurerez pas. Mais vous dépérirez à cause de vos péchés et vous gémirez les uns auprès des autres. Ce qu'Ézéchiel a fait vous servira de signe. Quand cela arrivera, vous agirez exactement comme il a agi et vous reconnaîtrez que je suis le Seigneur, l'Éternel. Versets 23 et 24. Les cérémonies de deuil, avec leurs démonstrations bruyantes, étaient des analgésiques, une façon d'endormir la douleur suite à un drame. Ici, Dieu veut au contraire que les exilés gardent la tête froide et rentrent en eux-mêmes afin de bien réaliser que c'est leur péché et celui de leurs frères qui ont attiré sur eux ce châtiment sans précédent. Ils doivent d'abord battre leur coulpe dans le secret de leur demeure et verser l'un dans le cœur de l'autre leur douleur à voix basse comme on doit le faire dans les moments solennels ou de grande détresse lorsque la main de Dieu s'apesantit sur l'homme. Cette profonde remise en question devait les conduire à une crise salutaire, à la repentance, afin qu'en eux se dessine le reste fidèle qui sera le nouvel Israël. Je continue. Et maintenant, fils d'homme, écoute. Le jour vient où je leur reprendrai leur sanctuaire qui fait leur force, leur joie, leur parure et qui charme leurs yeux, ainsi que ce qui fait l'objet de leur sollicitude, leurs fils et leurs filles. Verset 25. Jérusalem était la ville que Dieu s'était choisie, et le temple était sa maison, et elles auraient dû être ses témoins dans le monde. Mais à cause des rébellions incessantes de son peuple, Dieu décida de les détruire. Il est désormais trop tard pour pleurer et pour se lamenter. Dans le livre de l'Apocalypse, Jésus avertit les églises que si elles ne lui restent pas fidèles, il ôtera leur témoignage. Aujourd'hui, il n'en reste aucune d'entre elles. Elles ont toutes disparu au profit de l'islam. Je finis le chapitre 24. En ce jour-là, un rescapé arrivera vers toi pour annoncer la nouvelle. En ce jour-là, quand ce rescapé arrivera, tu pourras ouvrir la bouche et tu parleras. Tu ne seras plus muet, tu leur serviras de signe et ils reconnaîtront que je suis l'Éternel. Versets 26 et 27. Ces derniers versets servent de conclusion à la première partie du livre d'Ézéchiel. Au début de son ministère, l'Éternel avait interdit aux prophètes de parler aux exilés comme on le ferait avec ses voisins et ceux qui nous entourent. Ils ne devaient ouvrir la bouche que lorsque Dieu mettait une parole sur ses lèvres. À partir de maintenant, c'est un mutisme complet qui lui est imposé et cela jusqu'au jour où un réchappé de Jérusalem viendra apporter la nouvelle de sa destruction. Quelle éloquence dans ce long silence! Il sera comme le calme qui précède la tempête. Ézéchiel va se taire pour laisser la parole aux événements que Dieu dirige. Ce mutisme symbolise la disparition totale du vieil Israël. Quand la parole sera rendue au prophète, il pourra accomplir la seconde partie de son ministère qui consistera à annoncer les grâces futures de l'Éternel envers son peuple et donc la renaissance de ses cendres, pour ainsi dire. Il faut parfois que toute espérance terrestre ait disparu pour que l'homme s'ouvre à l'espérance qui vient d'en haut.